Merci, Père Céleste, d'être présent parmi nous. Et tu parles de notre intérieur et tu es vivant en nous. Et merci de te révéler encore davantage et encore et encore. Merci, au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà entendu l'expression « l'arbre cache la forêt » ? Non ? Ça veut dire ce qui est un détail est caché par ce qui est l'ensemble. Et il me tenait à cœur un petit peu de parler de l'ensemble. Moi, j'aime beaucoup la forêt, vous savez. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est l'autre jour, hein, on était ensemble en famille et puis quelqu'un était en visite. Cette personne a perdu sa maman. Et elle nous disait qu'elle avait fait un testament. Et il l'a déposé chez le notaire. Et puis, il y a des bagarres avec sa sœur. Et sa sœur prend un avocat pour améliorer les répartitions de l'héritage. Il n'y aurait même pas eu besoin de testament. La loi prévoit des choses déjà. Et ce qui m'est resté dans ma tête, c'est testament. Vous savez, testament, la Bible, c'est quand même drôle que nous ayons cette désignation pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est, en fait, c'est un testament, un seul testament, on devrait dire. Et j'ai regardé le Larousse. Le testament est un acte juridique par lequel une personne déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Et en troisième explication, ça c'est la première de Larousse, dans le judaïsme et le christianisme, alliance ou pacte établi par Dieu avec son peuple et consigné dans l'Écriture. Alors j'ai cherché à ce que le mot même qui est désigné dans les deux parties de la Bible, grand titre, s'il y est, et j'ai trouvé que deux versets. Hébreux 9:16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Hébreux 9:17, car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force tant que le testateur vit. Vous comprenez le terme testateur? C'est le futur mort, en fait, le testataire. Hein? Et vous savez, les deux testaments que nous avons sont des lettres d'un futur mort, car Dieu, qui est le testateur, c'est Dieu qui a donné ça aux hommes, les testaments. Mais lui, il ne mourra jamais. Donc c'est pas comme nous, les êtres humains, nous faisons des testaments. Et il lui tient à cœur d'exécuter ses dispositions, sa volonté, tout en étant présent et vivant entre nous. Et souvent, entre les testaments des êtres humains, sont secrets cachés jusqu'à ce que la personne meure. Mais tous les héritiers de Dieu sont invités à en prendre connaissance. C'est particulièrement bénéfique pour le né de nouveau. Et j'espère que vous êtes né de nouveau. Hein? C'est tellement important de connaître ce testament qui est vivant. Et même le testateur, il dit, discutez entre vous et distribuez le plus de copies de ce testament. il faut distribuer, ou par la bouche, ou sur papier, ou dans les rencontres, dans les situations. Il faut distribuer ce testament. Et je dirais succinctement l'Ancien Testament, que le propriétaire de l'univers et de tout ce qu'il contient, qui est donc le testateur, se présente comme créateur, comme père qui pourvoit, aimant, mais aussi inspirant de la crainte. Une chose est sûre, et ça, soyons convaincus de ça, personne n'est juste comme Dieu est juste. Il n'y a pas d'autre juste, nous ne sommes pas justes. Hein? Mais lui, il est juste. Et c'est tellement rassurant, vous savez, de pouvoir se référer à ce que toi tu dis, c'est comme les choses sont. Et dans son testament, et en quelque sorte, il nous donne un fil rouge de vie auquel nous pouvons ou nous devrions nous référer. Et par rapport à ce que j'ai dit, crainte, si j'aime Dieu, et c'est un des grands commandements, vous savez quoi, ma crainte, elle devient confiance, respect et joie, n'est-ce pas? Et pour une partie de l'Ancien Testament, les dispositions déjà révolues et accomplies, mais certaines sont dans l'Ancien Testament, sont encore prévues, même par rapport à notre futur. Voilà. Voilà, donc je reprends le fil. Le testateur, il dit dès le début que nous sommes de son espèce. Hein? Quand il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », Genèse 1, 26a. Et là, c'est déjà une indication, nous avons appris ça évidemment dans des cours bibliques, que c'est l'apparence de la notion Trinité, parce que Dieu dit « faisons », donc il parle au pluriel. « Et l'homme devint une âme vivante », Genèse 2, 7c. Et vous savez, ça, Dieu ne le dit pas des animaux, âme vivante. C'est uniquement dans l'homme que Dieu a soufflé une respiration de vie, Genèse 2, 7b. Il s'agit du souffle de la bouche de Dieu lui-même. Oui, nous avons le souffle de Dieu en nous. Dieu ne fait pas mentionner qu'il a façonné les animaux, mais pour l'homme, c'est assez spécial. Il fait dire que toi, homme, tu es de la vulgaire poussière, mais ce que j'ai soufflé en toi est d'une grande valeur. Comme s'il voulait dire, c'est d'une grande valeur parce que ça vient de moi, même si cela n'anime que de la poussière, en quelque sorte. Et nous avons énormément de choses à apprendre de notre Créateur en lisant les paragraphes, les histoires ou les livres de son premier testament. Le but de son premier testament était que nous fassions sa connaissance sous tous ses aspects. Il aime, vous savez, Dieu, il aime que nous nous intéressions à lui parce qu'il sait que c'est pour notre bien d'étudier son testament. Et nous savons de l'Ancien Testament particulièrement, qu'il avait choisi un peuple censé le faire connaître. Lui, sa pensée de papa, lui, ses projets d'amour, lui, ses projets de famille, lui, ses projets de relations entre nous. Et le fait de se présenter aussi comme père est encore une preuve supplémentaire, puisque nous avons la prière « Notre Père », que nous sommes de son espèce, n'est-ce pas ? Nous sommes de l'espèce de Dieu. Pourquoi les animaux ne célèbrent-ils pas Dieu ? C'est parce que Dieu, il n'en parle pas. Hein? Et il est un père qui s'attend évidemment à du respect pour lui, mais aussi un père qui fait tout par amour. Et cela vient très évident à travers ce peuple qu'il s'était choisi, qu'on peut dire qu'il l'a vraiment gâté, même s'il est un père sévère, mais il l'a gâté, parce que il voulait faire paraître la différence d'avec les peuples qui négligent Dieu, qui ignorent Dieu. Même pour le moment, son peuple, on parle d'Israël évidemment, élu, n'a pas encore été la lumière des nations, nous lui devons quand même, nous devons la rédaction du Premier Testament. N'est-ce pas ? De la part de Dieu, c'est un merveilleux testament dans lequel son peuple élu est clairement encore en attente de l'héritage final. Et ça, nous voyons des indications là-dessus en Romains 9, où Paul parle de qu'ils sont à la source de la révélation de Dieu. Il faut lire le Romains 9. Et quand même, réfléchissons un instant sur Israël. Des milliers d'années, un si petit peuple, et il n'a pas disparu. Il aurait pu être effacé. Hein? Rien que ça, ça nous fait croire que Dieu était derrière ce pays. Et vous savez que le testateur, Dieu, nous dit, écoute-moi, fais comme je te dis, mais aussi ne fais pas ce qui ne me plaît pas. Il nous dit aussi, mets toute ton énergie pour faire ma connaissance. Et il insiste, même s'il sait que je ne l'écouterai peut-être pas, ni que je choisisse ou décide de l'écouter, voire que je me bouche carrément les oreilles ou je ferme les yeux et que je ne voie pas et que je fasse qu'à ma tête. Vous savez, Jésus a dit, je voulais dire que Dieu avertit sans cesse des dangers que représente la désobéissance à ses principes. C'est-à-dire d'écouter son ennemi juré qui, pour le moment, il lui a laissé une principauté sur la terre, le prince de la puissance de l'air, et qui use plein de ruses. Pourquoi il use des ruses ? Pour nous faire rebelles contre notre père d'origine. Et le diable, il veut copier, mais il copie en mal. En Jean 8, 44, c'était une parole dure, il disait ça aux religieux. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est étonnant que le diable voudrait aussi être père. Et vous savez, Dieu lui l'a empêché avec le déluge de devenir père, parce qu'il se mélangeait à la race humaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu le déluge. pas si je déborde, non? Ça va. Ok. Continue. Notre Père, notre Dieu est un Père à respecter et à suivre. Et il fournit quelques critères très simples aux héritiers. Il révèle aussi, c'est magnifique sa propriété. La création, c'est beau. C'est un miracle, un bébé qui naît. C'est un miracle qu'on puisse parler, qu'on puisse comprendre et tout. Ça, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Et nous faisons partie de sa propriété. Nous appartenons à Dieu. Donc, c'est une affaire de famille, puisqu'il est notre Père. Et il n'y a pas de bagarre pour l'héritage, vous savez. Et dès le début, il fait comprendre aux hommes qu'il s'engage. C'est un papa qui est responsable par une alliance garantie à eux. Une alliance où on n'a rien à produire. Hein? Et l'héritier de tout ce qu'il possède est annoncé dans son premier testament. Il s'agit de son fils qui est venu pendant un très bref moment pour sceller l'alliance. Et sans cesse, Dieu répète qu'il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Croyons-nous ça, qu'il nous aime, hein? Et il ne nous veut que du bien, même si ça passe par des choses difficiles. Même si nous ne le comprenons parfois pas. Et notre Dieu a été établi et révélé des règles de vie entre nous, n'est-ce pas? Notre Dieu protège et veille sur la bonne éducation de ses enfants. Le fondateur de notre ministère avait l'habitude de qualifier l'école biblique de forme suprême d'éducation. Highest form of education. Pastor Stevens disait ça. Notre Dieu nous donne une identité, on l'a déjà vu. Je suis fait à sa ressemblance. Et il affirme nous connaître mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. On voit ça en 1 Corinthiens. Je ne sais pas combien, où il est question de que l'esprit sonde le cœur. Donc, Dieu nous connaît plus que moi, je me connais. Hein? Et si cette notion n'est pas connue, il y a une histoire sur à la fin du règne de Saül, le roi, David l'a remplacé, il y a cette histoire sur Méphibosheth. Et je dirais simplement que nous sommes tous des Méphibosheths. Nous avons tous le péché et notre handicap, nous, si nous croyons, est caché sous la table. Et nous regardons, écoutons et parlons avec le roi pendant le repas. Quel honneur d'être à la table de Dieu. C'est un honneur, vous savez. Et évidemment, je vais sauter une ligne là, un testament nous parle d'hérité et héritage. Aujourd'hui, à l'instant même, depuis que vous croyez en Jésus, nous avons reçu la garantie de notre héritage. Nous avons la garantie et nous découvrons dans les versets que je vais lire que l'héritier, c'est le croyant, saint, le saint. Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ô lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est cette garantie dont je parle, de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Bon, me fait mal là. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, nous les saints. Tous les croyants sont des saints. Parlons de l'héritier. Dieu, dans ses derniers, Hébreux 1-2, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et vous savez, Jésus a parlé du ciel à Saül, qui est devenu Paul, en Actes 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux aux autres, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Moi, je peux que vous recommander. Ne laissez pas venir de la poussière sur ce testament. Ce testament, il devrait vous gêner tout le temps. Vous devriez tout le temps le consulter si vous y référez. Et j'espère que sa compréhension, même l'ardent désir de comprendre, fasse l'effet qu'il faisait aux disciples d'Emmaüs que Pasteur Tony a parlé hier soir dans la rencontre, en Luc 24, ils se dirent l'un à l'autre après que Jésus leur explique l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, le Testament? Que Dieu vous bénisse. Amen.